Salut les marques et les smarts et bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui review et analyse l'activité de Monday Night Raw, de Friday Night SmackDown, de la WWE, de tout ce qui touche au slip, à la sueur et tout. C'est une intro complètement custom, vous m'avez peut-être reconnu, je n'ai pas l'habitude d'être à la présentation, c'est votre serviteur Giscal. Et nous sommes réunis aujourd'hui pour reviewer dans ce mois d'août bien calme, le Monday Night Raw du lundi 8 août 2022, si je ne dis pas de bêtises. Et pour continuer à ne pas dire de bêtises, je vais vous présenter mon invité du jour. Mais mon invité, ce n'est nul autre que notre cher ami Papy. Papy, comment vas-tu ?
Bonjour, petits enfants, bonjour, Giscal, mais ça va et toi ?
Bah écoute, ça va très très bien. Nous avons un duo assez inédit. Je ne sais pas si on a eu l'occasion de faire des reviews tous les deux. En tout cas, pas depuis un bon moment, en tout cas, si ça a été le cas.
En tout cas, pas seul à deux, vu qu'on a plutôt l'habitude de répondre aux questions de l'autre. Et c'est pour ça que je sens que t'es perturbé. Je suis bien content que ce soit de l'astoglyphase.
Voilà, tu sens qu'on est dans une intro pas aussi maîtrisée que tous les présentateurs qu'on a d'habitude. Hein, notre cher tonton Chris, le patron IRM, même Ringside, le taulier aussi. Donc là, nous avons deux color commentators, deux Pat McAfee. Ou deux Corey Graves, peut-être c'est plus flatteur.
Tant qu'on n'est pas deux Byron Saxton. Hein.
Voilà, j'ai voulu soigneusement éviter Byron Saxton. Donc deux aux commentaires, mais je vais me coller au dur exercice de la présentation et tu vas donc nous éclairer de tes lumières pour ce Monday Night Raw du 8 août donc qui se déroulait au Rocket Mortgage Fieldhouse à Cleveland dans l'Ohio. Plusieurs catcheurs originaires de Cleveland et d'ailleurs on va voir un peu plus tard dans l'émission que ça aura permis peut-être à certains d'être mis à l'honneur. Mais en tout cas, avant de parler de ça, on va commencer avec l'ouverture du show qui a été consacrée à la division féminine, la division star du moment à Monday Night Raw. Depuis que Triple H a repris les commandes, les femmes sont au pouvoir et donc on ouvre avec un grand récap évidemment hein, de ce qui s'est passé à SummerSlam, le retour de Bayley, de Yo Sky, de Dakota Kai, l'annonce du tableau pour le tournoi tag team féminin. Pour ceux qui suivent les réseaux sociaux, il avait été annoncé hein, donc qu'un grand tournoi pour les ceintures tag team féminines allait démarrer à Monday Night Raw. Ça va faire partie du programme du soir. Et pour lancer les hostilités, eh bien on a justement le nouveau trio en vogue qui a le vent en poupe. Les trois méchantes que je viens de citer qui viennent faire une petite promo au milieu du ring. Donc Bayley qui prend le micro, hein, c'est la leader, donc ding dong, elle nous annonce que les temps changent hein, maintenant. Elle en profite, elle dit les fans, elle est assez agacée de la réaction des fans qu'il a eue alors que pourtant ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'avoir Bayley qui revient les sauver, hein, revient sauver la division féminine. Et que donc maintenant elle se pose en nouveau rôle modèle que tout le locker room, tout le vestiaire féminin avait besoin. Et donc elle est là pour ramener un petit peu de niaque, de punch, de faim, de hunger, comme elle dit, et se débarrasser de Becky Lynch et de Bianca Belair. Elle mentionne ses deux comparses pour les présenter. Donc là, petite coquille, petite boulette, puisqu'elle présente Io Sky et Dakota Sky. Le public qui, évidemment...
Les sœurs Sky.
Les sœurs Sky, les fameuses. Hein. Donc, le public qui ne s'en laisse pas compter, qui tout de suite mord dedans et se moque de Bayley, qui a la bonne réaction, hein, qui évidemment ne se laisse pas faire et fait pas comme si elle n'avait rien dit. Donc, elle fait « Oui, je sais, bande de débiles, je l'ai mal dit, on s'en fout. » Et donc, voilà, bon, la promo continue, évidemment. Les faces du soir interviennent, puisque... Un peu plus tard, on apprend donc que dans le tableau féminin, Dakota et Io vont affronter Alexa Bliss et Asuka. Donc voici Alexa Bliss et Asuka qui interviennent avec Alexa Bliss micro en main, Bianca Belair qui arrive assez rapidement derrière. Et donc voilà, petite joute verbale, 3 contre 3 dans le ring. On hype aussi un petit peu le 3v3 qui arrive à Clash at the Castle, puisque ces six jeunes femmes vont se rencontrer au-delà du tournoi tag team, vont se rencontrer à Clash at the Castle. Donc petite hype, Bianca Belair et les faces qui elles, comme tout bon face se respecte, veulent Bah, cela collé right here, right now, maintenant tout de suite. Donc bah, c'est parti, ça se colle des mandales. Et puis bah, les faces font place nette et les heals s'échappent. Et donc voilà un petit segment d'ouverture, à la fois pour le tournoi, à la fois pour le 3v3, les femmes à l'honneur, un petit peu de baston. C'est les nouveaux Monday Nitro. Qu'est-ce que tu as pensé de cet opener, papy ?
Je suis d'accord, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Une petite précision, une petite correction sur le tableau. Les deux équipes,
ah oui, tu as raison, tu
elles
as raison.
Sont dans,
oui,
la,
oui,
elles sont dans la même partie de tableau, mais elles ne s'affronteront
oui,
pas
oui,
directement. Puis, elles auront
oui,
premier tour chacun passé. Hein. Elles sont potentiellement adversaires en demi-finale.
On anticipe, je vais déjà trop loin, même si tu n'es peut-être pas d'accord sur le bracket. Donc on verra ça après.
Ouais, on va reparler du bracket. Effectivement, je pense qu'on n'a pas exactement la même vision de ce qui va se passer, mais bon, c'est ça qui est intéressant. Sinon, ouais, donc grosse promo des filles qui plantent un peu le statut de ce groupe de trois. Bailey, elle se laisse pas décondenser par sa petite erreur, ça c'est déjà bien. On sent quand même la fille qui est à l'aise au micro, puis qui enquille, de toute façon, voilà, c'est bon, j'ai merdé, puis on passe à autre chose. Je pense que c'est à ce moment-là qu'ils annoncent le 3v3 à venir à Clash of the Castle,
ouais.
Donc il y a le défi qui se fait, et du coup, l'annonce qui est faite dans la foulée, je sais plus exactement comment ça se fait, mais bon, en tout cas, c'est là, on est parti sur une grosse rivalité à 3v3. C'est globalement les 6 meilleures filles d'Euro, de toute façon, donc ça sera
voir de la division dans son ensemble en ce moment.
Oui,
enfin,
vu la qualité de SmackDown, on n'a pas le choix.
Oui,
en enlevant les absences, c'est un peu ça, effectivement, c'est un peu les 6 qui restent qui sont intéressantes. On s'attend du gros niveau. Et puis voilà quoi, je pense que ce sera, on est impatient de le voir. Et puis bah tu faisais le clin d'œil sur les nombreux catcheurs de Cleveland, Ohio. Là on avait Alexa Bliss qui est pas de Cleveland, qui est de Columbus, mais qui est de l'Ohio quand même. Donc
oui,
voilà,
de
notre première régionale de l'étape de la soirée.
Ouais, je crois qu'il y a en effet pas mal de catcheurs qui sont de l'Ohio. Mais donc ouais, bon voilà, on avait vraiment de la qualité dans le ring. C'est sûr que ça contraste pas mal avec SmackDown, c'est-à-dire que bon, ils n'ont pas trop le choix. De toute façon, s'ils veulent faire briller un peu les femmes, il faut qu'ils mettent un peu tous leurs œufs dans le même panier. Donc, c'est à Raw que ça se passe en ce moment. Donc, ils ont décidé de toutes les mettre dans le ring ensemble, ce qui n'est pas forcément débile. Hein. Mais on sentait, hein, de toute façon, dans toutes les prises de micro, qu'il y avait quand même un peu plus de métier. Et ils ont laissé parler Alexa Bliss et Bayley, notamment, pas mal. Donc, c'est gage de qualité. On est sur quelque chose d'un peu plus costaud qu'à SmackDown, c'est sûr, hein, c'est un doux euphémisme. En parlant de costaud, bah écoute, on va enquiller avec deux costauds puisque nous avons le chapitre 2 de ce qui s'était passé la semaine dernière, Angelo Dawkins qui va affronter Seth Rollins. On avait eu Seth Rollins contre Montez Ford la semaine dernière avec une victoire au forceps de Seth Rollins de l'architraître, il va se farcir Angelo Dawkins. Montez Ford est évidemment aux abords du ring, ça démarre avec un match. On va pas faire un play-by-play trop détaillé, mais un match très très énergique. J'étais assez content de voir Angelo Dawkins en solo, puisque au final, j'ai le sentiment, sans doute à tort, parce qu'il se peut qu'il y ait eu des matchs 1 contre 1 contre Jey Uso ou Jimmy Uso avant, mais je sais pas, j'avais pas forcément souvenir de le voir en solo, et je trouve qu'il a été encore une fois très très bien mis en valeur par Seth Rollins. Des séquences assez classiques, Dawkins qui fait beaucoup de moves, de dive à l'extérieur du ring, de dropkick, de moves de high flyer, malgré son gabarit. Seth Rollins qui déroule lui aussi ses moves habituels. Un stomp vers la fin du match, un stomp est contré, et Dawkins qui arrive à placer son sky high pour le compte de 2. Malheureusement, il retente une deuxième fois, se disant que il va peut-être contrer une des règles immuables du catch qui dit qu'il faut jamais tenter deux fois le même move de suite au risque d'être contré. Mais c'est finalement ce qui va se passer, puisque un deuxième sky high consécutif est renversé en un pedigree. C'est un joli changement de c'était agréable de voir un match se finir sur ce finisher, puisque ce sera la fin du match. Seth Rollins qui l'emporte sur un pedigree en 8 minutes 30 d'après les compteurs. On a eu une deuxième mise en valeur par maître Seth Rollins d'un des deux Street Profits. post-match, Seth Rollins qui a essayé de s'attaquer à Dawkins avec un stomp, mais Montez Ford est une nouvelle fois là pour sauver son partenaire. Donc voilà, est-ce que tu aimes bien ce qui se passe avec les Street Profits, ce match, comment est-ce que tu vois un petit peu la suite des choses? On voit beaucoup Montez Ford dans le rôle du sauveur, que ce soit à SummerSlam ou ici. Enfin, SummerSlam, c'était sauveur échec du sauvetage. Est-ce que le split est toujours à l'horizon ou est-ce que les choses se passent finalement un peu mieux? On ne sait pas trop.
Ouais, je suis en train de me souvenir. Est-ce que c'est dans ce match-là où Ford se fait sortir parce qu'il se retrouve en plein milieu du ring avant, hein, parce qu'il est encore vénère ou je sais pas quoi, ou peut-être que je confonds avec un autre match. Ça te parle pas, ça, ou...
Non, alors il se fait pas sortir, mais c'est pendant ce match-là, il y a eu des interactions assez drôles de Montez Ford aux abords du ring où il fait...
Non, il rentre avec une chaise à un moment, voilà, ça me revient. Il rentre avec une chaise pour attaquer Rollins. Ça te parle pas, ça?
Si, tu as raison. Et donc, il s'est éjecté, tu as raison.
Et donc, en fait, moi, j'ai l'impression que c'est toujours de plus en plus le split qui est tenté, parce qu'en fait, on a vraiment l'impression que c'est Ford. Toi, tu dis qu'il sauve Dawkins, moi, j'ai l'impression qu'il le plombe en ce moment, parce qu'en fait, il est totalement hystérique.
Oui, en fait, il est un peu incontrôlable, ouais, en effet.
Il est un peu incontrôlable, et puis, du coup, ça a des conséquences un peu néfastes, parce que là, il se fait sortir, alors c'était à SummerSlam, où il s'énerve contre l'arbitre sur le compte, contre Jeff Jarrett. Hein. Et au final, ça cause la défaite.
Pas grand-chose, au final. Ouais.
Et en fait, il pète des plombs sur pas grand-chose en ce moment. Et à chaque fois, ça finit par une défaite, soit de lui, soit de Dawkins. Et j'ai l'impression que c'est vrai, plus que de sauver, il est en train de plomber, en fait, Dawkins, même si, effectivement, il est représenté un peu comme le leader du groupe, le plus fort, tout ça. Mais là, il plombe complètement son équipe là, depuis quelques semaines. Est-ce que c'est une fausse piste pour qu'au final, il reste plus fort que jamais en nous teasant la distension? En tout cas, moi, je la trouve plus forte que jamais. Et on verra ce que ça donne. Et puis Dawkins dans le ring, ouais, moi, c'est vrai qu'on le voit rarement en solo, mais quand en tag team, dès qu'il rentre dans le ring, souvent, ça fait de l'effet parce que c'est un peu le biggie en fait de l'équipe,
ouais,
où le mec où t'as pas l'impression que c'est t'as l'impression qu'on avait juste une grosse brute avec le personnage principal, et en fait il mine de rien, il s'est catché, il est assez souple, assez aérien. Je ne sais absolument pas comment il pourrait vivre sans les Street Profits, parce que il est vraiment imprégné de cette équipe, lui, en termes de personnage. Oui. Par contre, il s'est catché, et ça c'est indéniable, et c'est toujours agréable de le voir entre les cordes.
Ouais, non, c'est sûr qu'en effet, la suite, on a souvent tendance, quand il y a des tag teams qui split, à évoquer les rockers de l'époque, Marty Jannetty, Shawn Michaels. Il y avait une expression un peu dans le catch qui avait été utilisée parfois dans quelques promos, c'est qui est-ce qui va être un peu le Marty Jannetty de l'équipe.
Ça fait, ouais.
En cas de split, bon, il y a fort à parier quand même que Angelo Dawkins soit un petit peu le Marty Jannetty des Street Profits, mais au demeurant, ce serait quand même... en effet, moi, je suis assez d'accord avec toi, c'est un mec qui fait de l'effet dès qu'il rentre dans le ring, même en solo, j'ai été très agréablement surpris. Alors voilà, c'est parce que je l'ai dit un petit peu dans le récap du match, ça aide quand même quand on est face à Seth Rollins, parce que de toute façon, en ce moment... Seth Rollins, tout ce qui touche, ça devient, c'est même pas de l'or, ça devient, c'est des diamants ou du platine que ça se transforme. Donc c'est vrai que je pense que c'est assez exceptionnel de catcher avec Seth Rollins en ce moment. Mais oui, Angelo Dawkins, il est aérien, il est souple, il est vif, il est charismatique, il est très imprégné Street Profits, mais tu sens que le mec a du bagou et tout. Il pourrait se débrouiller, mais bon, après ça dépendra si. On sait comment ça se passe quand les équipes split. Généralement, la WWE a rarement tendance à investir dans les deux, et c'est plutôt parce qu'elle a des plans pour un. On verra. Mais c'est vrai que je suis d'accord. Mon questionnement était un petit peu, innocemment tourné, mais je suis assez d'accord avec toi. La tension reste très forte, et il y a quelque chose qui est avec Montez Ford qui est assez intéressant, c'est que on a l'impression que il est presque attiré par les spotlights malgré lui. Sa personnalité est trop forte. Il se laisse emporter. Par ce qu'il est à SummerSlam. C'est son aveuglement pour la compétition, le gain, la victoire. Peut-être qu'il l'a un peu qui l'a un peu fait perdre les pédales et fait perdre le match. Après, on a eu la semaine dernière, il a triché lors du Shifumi, ce qui je trouve était à la fois assez innocent et assez révélateur, c'est-à-dire que ils sont toujours bons copains, mais dès qu'il s'agit de tirer les marrons du feu ou d'être un peu sous le feu des projecteurs, c'est quand même toujours Montez Ford qui insiste et qui prend des shortcuts un peu comme ça. Donc il avait triché lors du Shifumi, il a perdu, il faisait clairement le showman aux abords du ring avant de se faire éjecter, il cabotinait avec Seth Rollins, c'était assez drôle, et puis du coup il peut pas s'en empêcher, il est tout le temps impliqué, donc en effet c'est assez rigolo ce qu'ils font, je trouve, comme split. C'est pas, enfin si split hier, hein, on n'est pas sur une tension, on va dire, il y en a un qui trouve que l'autre est plus faible ou qui commence à s'agacer des défaites de l'autre. C'est, je sais pas, on a l'impression qu'il est presque emporté par son ego involontairement tout en restant dans l'esprit Street Profits. Donc je trouve que c'est assez fun à suivre. Moi je trouve ça vraiment pas mal,
et c'est assez finement joué en fait. Comme tu dis, t'as plein de petits indices. Moi, je suis d'accord avec toi. Le Shifumi de la semaine dernière, c'était pas du tout anodin que ce soit lui qui triche pour avoir le match contre Rollins. Il est emporté par son ego et par son personnage. Comment dire, c'est comme si c'était un Street Profit sous Extra, là. Tu vois, il est complètement boosté. Et il maîtrise plus rien en fait, et il est en train du coup peut-être de détruire détruire tout ce qui est autour de lui, alors qu'il en voulant bien faire, tu vois. Mais bon, c'est à voir. Je sais pas s'il y aura la rédemption de Montez Ford derrière, ou si ça va partir dans un truc complètement vrille où il pète un câble complet, il pète le boulard complet, quoi.
Ouais, ça va être intéressant à suivre, en effet. Mais c'est fin, c'est travaillé, c'est des petits développements d'histoire qu'on aime bien. Et en parlant de petits développements d'histoire, on va continuer avec un double segment backstage. Le premier, on allait retomber un petit peu de ce qui s'est passé avec le Judgment Day, Dominic Mysterio, Rey Mysterio, Edge en main event de Raw la semaine dernière. Vous souvenez tous, chers auditeurs, mais en main event, nous avions une énième rencontre entre le Judgment Day et les Mysterio, et qui avait été coupé court par l'intervention de Edge, qui avait fini par spear Dominic Mysterio dans la confusion la plus totale. Donc on retrouve les trois babyface de l'histoire, parce que Edge maintenant est de retour, babyface comme jamais, hein, après nous avoir dit la semaine dernière qu'il avait été un peu con, donc ça va, maintenant je suis gentil. Donc ils sont tous dans le vestiaire, ils discutent un petit peu, Edge qui dit, écoute, Dominique, tu te doutes bien, j'ai pas fait exprès la semaine dernière, j'espère que tu m'en veux pas trop, ce soir... il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, puisqu'il va y avoir un petit match entre Finn Balor et Rey Mysterio. Pas de hard feeling, we're cool, hein, on est bon, on est cool, tout va bien. Alors Rey Mysterio répond un petit peu pour son fils, il dit oui, pas de problème, t'inquiète, sauf que Dominic Mysterio, lui, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Il a l'air de l'avoir très mauvaise, le gamin. Donc son père essaye de le calmer, il dit écoute, attends, je connais Edge depuis 20 ans, t'inquiète, c'est un bon mec, c'est vrai que c'est pas du tout l'ultimate opportuniste.
C'est pas Edge, tout le qualificatif que j'aurais dit, un bon mec, hein, quoi, mais bon.
Ouais, c'est bon, je sais pas si c'est le mec qui a prouvé dans toute sa carrière d'être le gars de confiance, mais bon, ok, écoute. Hein. Et Dominic Mysterio qui rétorque à juste titre à son papa, à son paternel, que écoute, tu le connais depuis 20 ans, mais toi tu me connais depuis 25 ans, donc bon, je sais pas si c'est la meilleure réplique, mais bon, écoute, c'est tout ce qu'il avait en stock, Dominique, et donc il s'en va. Et juste dans la foulée, avant qu'on fasse un petit récap de ça, on a un autre petit segment backstage. Ciampa, Tommaso Ciampa, qui est accompagné du Miz, interviewé par Mr. Frédéric, Matthew Frédéric, je sais plus, j'aime bien cet intervieweur là avec l'accent un peu. Un peu Englishman là, qui est en train de donc Ciampa qui est en train de se préparer pour son match pour le titre des États-Unis ce soir contre Bobby Lashley, donc un petit peu hypé, tout ça, il fait son interview. Ciampa qui en profite, alors chose assez rare, euh, il il dit qu'il va dédier le match de ce soir à Harley Race, donc Harley Race, catcheur de légende de la WWE, qui a entraîné Tommaso Ciampa. Et donc, apparemment, on célébrait les 3 ans, enfin, on célébrait, c'est pas vraiment le terme, mais en tout cas, voilà, Harley Race était décédé il y a à peu près 3 ans. Ce jour, enfin Monday Night Raw, donc Tommaso Ciampa, voilà, voulait faire un petit clin d'œil à son entraîneur défunt. Et d'ailleurs, il va porter au ring ce soir la robe que Harley Race portait manifestement à Starrcade 1983. Donc là, je vous cache pas que c'est pas mes souvenirs qui jouent, hein, ce sont mes notes. Et donc chose assez rare, puisque un heel qui rend hommage comme ça, ça fait très babyface, surtout. En amont d'un match pour le titre, choix assez particulier dans la dynamique face heel, mais bon, écoute, on peut pas non plus si ça tenait à cœur à Ciampa, je pense que dans les coulisses, je les voyais mal aussi lui refuser ça. Donc voilà deux petits segments backstage que j'ai trouvé assez sympa pour hyper deux matchs qui vont quasiment suivre dans la foulée. Un petit commentaire peut-être, Papy, sur ces segments.
Les deux, alors c'est marrant parce que les deux n'ont pas fait le même effet. Voilà, je vais le dire les mots dans l'ordre, je vais y arriver. Le premier avec les Mysterio et Edge, il y a quelque chose qui est marrant en fait. Du coup, là-dessus, c'est que c'est le fameux truc où tu te dis, il y en a un des deux, c'est un traître, mais tu ne sais pas c'est lequel des deux. Et puis du coup, bah, ça sera entre Dominique et Edge que ça se passait, et Mysterio entre Ré entre les deux qui va pas savoir quoi faire. Dominique qui réagit un petit peu de manière brutale, je trouve, parce que bon, tu vois bien que le Spear la semaine dernière, enfin, il y a les vidéos comme nous, quoi. Il voit bien que c'est réarrivé, qu'il avait poussé sur le chemin. Donc il y a, enfin, c'est un accident a priori. Néanmoins, c'est vrai que Edge, c'est comme un historique d'enfoiré assez impressionnant. Moi, on en reparlera tout à l'heure, parce que je crois qu'il y a un match plus tard dans le show avec ceux-là de mémoire.
Ouais, Finn Balor et Rey Mysterio qui
c'est ça, tout à fait. Et du coup, j'ai pas d'avis arrêté sur le rôle de chacun entre Dominique et Edge. Voilà, on en reparlera, voilà. Et le segment d'après avec Ciampa, moi, j'ai pas trop aimé que Ciampa sorte un peu du caractère pour faire une promo un peu babyface. Avec son long hommage à Harley Race, enfin, c'est bien qu'il lui fasse hommage. Ça m'embête toujours un peu quand t'as en plus un mec qui est pas du tout imposé dans le main roster, un mec comme Ciampa, les gens le découvrent à peine, et puis il est censé être heel, mais il fait une pro babyface, donc j'aime pas trop ça, je trouve que ça dessert complètement son personnage, sauf si c'est pour le passer face dans une semaine, mais bon, ça serait quand même pas... ça serait peut-être un aveu d'échec, ou j'en sais rien. J'espère que c'est pas juste un cadeau de papa Triple H à Fiston et Ciampa en disant « Mais vas-y, fais-lui hommage à ton copain, c'est pas grave, on s'en fout des alignements. Nous, ce qu'on aime, c'est le catch entre les rings et les coups et les machins.
Ouais, » Bref. J'ai un peu peur que ce soit ça, mais bon.
Ouais, c'est ce que je crains aussi. Hein. Mais bon, bref, voilà. Donc, c'était pas tip-top quoi, comme choix de promo pour Ciampa.
Ouais, non, je suis assez d'accord. De toute façon, c'est ce que je mentionnais un petit peu. C'est surtout juste avant un match pour le titre comme ça, alors que Bobby Lashley est un face bien ancré. Je trouve que ça gâche un petit peu la dynamique d'avant-match. Mais en même temps, j'ai vraiment du mal à voir comment ça a pu se passer autrement que en effet, Ciampa qui a dû aller les voir avant le show. En disant, écoutez, ça me tient vraiment très très à cœur de faire un hommage. Ça vous dérange pas si je le fais et tout. Et bon, je pense qu'ils ont dû lui dire, allez, vas-y, roule. Mais en effet, c'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage.
Après, c'est... juste une petite précision peut-être qui explique pourquoi Ciampa aurait insisté, je pense, c'est que Harley Race, donc c'était le coach de Ciampa, et Harley Race, c'est le premier champion US de l'histoire.
En plus, oui, c'est vrai. Non,
je
non,
pense
mais
que
a...
c'est pour ça qu'il y a clin d'œil qui est
symbolique. Oui, non, mais je pense que ça lui tenait très fort à cœur et tout, et je pense que voilà, il voulait et tout. Mais donc, en effet, oui, la petite promo de Edge, on y reviendra un petit peu plus tard, puisque nous avons en effet un match avec des dynamiques qui se mettent en place, et tout n'est pas forcément très très clair. Mais avant ça, on a comme un cheveu sur la soupe, écoute, parce que moi j'avais pas regardé le programme de Monday Night Raw, donc je ne savais pas, mais que vois-je, Ezekiel est dans le ring. Bon, il a pas eu son entrée, le pauvre, généralement déjà ça pue. Et puis, qu'est-ce qu'on voit débarquer? Kevin Owens est de retour. Kevin Owens a un match ce soir contre Ezekiel, alors on reprend la feud qui s'était arrêtée. Sauf qu'on va pas la reprendre bien longtemps, parce qu'en fait, Kevin Owens, bah, il est pas là pour rigoler, il est là pour casser des dos, casser des vertèbres, puisque bah, le match démarre, et ça part très très vite aux abords du ring, et là, c'est la pop-up, enfin, c'est pas du coup une pop-up powerbomb, hein, c'est une powerbomb sur le tablier du ring, comme Kevin Owens en a fait sa spécialité par le passé, et donc, voilà que les médecins arrivent, la civière, Ezekiel, ce bon Ezekiel, circuler, il n'y a plus rien à voir, il est tout cassé. Et Kevin Owens se prend une victoire, enfin une victoire par no contest, en tout cas un no contest en à peine une minute. Peut-être avant de parler de ça, juste pour boucler la boucle, on aura eu un petit peu plus tard dans l'émission, parce que je pense que ça devait être un petit peu plus tard, hein, mais Kevin Owens qui était en train de quitter l'arène et qui est intercepté par mon intervieweur préféré une nouvelle fois. Fitzpatrick, c'est ça, non ?
Kevin Patrick.
Ah, Kevin Patrick, ouais, c'est ça, pas Fitzpatrick. Kevin Patrick, mon ami, toujours bien coiffé, avec les dents parfaites et tout, et tout bien, bien apprêté. Et donc, il lui demande un petit commentaire. Je lui dis, écoutez, qu'est-ce qui vous a pris ? Pourquoi vous avez massacré Ezekiel comme ça ? Et donc, il dit, contrairement à Ezekiel, moi, je sais qui je suis, et justement, il était grand temps, peut-être, que je rappelle à tout le monde qui j'étais. C'est toujours le Kevin Owens Show. Je suis toujours un badass, super costaud, qui défonce des mecs. Et petite chose intéressante, parce que ce sera le début d'une sorte de fil rouge un petit peu, mais un fil rouge assez subtil, pendant cette interview justement qui se passait un petit peu dans les parkings intérieurs de l'aréna, puisqu'il se dirigeait vers sa voiture, on voit derrière une voiture crasher contre un pylône, encore un peu fumante, il y a Nicky H et Doudrop qui sont à côté d'ailleurs, et on sait pas pourquoi, et des flics qui s'affairent un petit peu autour de la voiture, donc on a l'impression qu'une enquête un peu se met en place, mais on aura l'occasion sans doute d'en reparler un petit peu plus tard. Peut-être un petit commentaire sur cette réactivation, désactivation express de Ezekiel Kevin Owens et ce retour de Kevin Owens aux affaires sérieuses peut-être.
Ouais, c'est une réactivation de Kevin Owens en mode attention, je suis un gars sérieux et je vais péter des gueules, avec sa powerbomb sur le tablier du ring qui a détruit pas mal de catcheurs et puis qui détruit Ezekiel. Je pense que c'était à la fois l'image même de la rivalité qu'on détruisait en une minute avec Kevin Owens qui tuait Ezekiel. Donc il a tué Ezekiel en même temps qu'il tuait la rivalité. Les deux vont partir dans des directions différentes et Owens repart vers le haut. Ezekiel, je pense qu'il va repartir doucement dans la low card, voire disparaître. Est-ce que c'est pas la fin déjà d'Ezekiel? Je ne sais pas. J'espère pas quand même. Moi, je trouve ça toujours dommage de pas aller au bout d'une idée, mais bon. Mais en tout cas, là, je crois qu'ils ont mis en image la fin de la rivalité.
Ouais, exactement, c'est ça. Oui, je suis assez d'accord. Je serais déçu, entre guillemets, que ce soit les dernières images d'Ezekiel à l'écran. Parce que bon, là, on le sort sur civière, donc ça sous-entend que, bon, a priori, on va peut-être pas le voir tout de suite. Et est-ce que si ça se trouve, est-ce qu'on le reverra tout court? Et est-ce que ce sera pas Elias qui reviendra? On sait pas. Pour venger peut-être Elias qui revient pour venger son petit frère
ou Elrod
d'ailleurs, c'est vrai, on pourrait continuer un petit peu ça, mais bon, je suis pas convaincu parce que j'ai quand même l'impression qu'en effet, comme tu dis, hein, c'était un enterrement de feu dès que Kevin Owens est destiné peut-être à revenir sur le terrain plus sérieux de Monday Night Raw, ce qui n'est pas pour me déplaire, mais voilà, si éventuellement on pouvait peut-être garder Ezekiel sur des choses plus légères et l'orienter vers un autre programme, ça me déplairait pas non plus parce que je trouvais que l'idée était assez rigolote, donc on va voir, mais bon, comme il a pas eu sa musique d'entrée et qu'il a été vite expédié, c'est quand même généralement rarement des bons signaux.
Non, mais je pense qu'il est là, il va redescendre en low card. Kevin Owens aura fait le boulot pour éviter que à chaque fois qu'il se pointe à l'écran tout le monde chante Elias. Ezekiel, le personnage existe maintenant. Il a donné finalement Owens en accordant cette rivalité. Est-ce que je pense que on a dû lui demander s'il était OK, lui a dû dire OK, parce qu'en plus, je pense qu'il doit bien s'entendre avec le mec vu qu'il a dû bosser.
Ouais, c'est un bon. Ouais.
Mais là, clairement, c'était l'objectif pour moi, c'était de planter le personnage de mettre devant le personnage d'Ezekiel. Owens a fait le boulot, il passe à autre chose maintenant.
Ouais, non, en effet. Et puis, écoute, nous aussi, on va passer à autre chose et on va revenir donc sur ce fameux, parce que en fait, dans la foulée, parce qu'on a beaucoup de matchs de catch ce soir, et donc dans la foulée, on a un autre match, alors celui-ci beaucoup plus long, que Finn Balor et Rey Mysterio. s'affrontaient 1v1 ce soir. Alors on a eu une petite promo juste avant le match avec Finn Balor et Damian Priest qui de mémoire hein, était au centre du ring et faisait une petite promo en disant que Priest alors Finn Balor qui déclare que voilà c'est un homme dangereux et qui promet de montrer ça à Rey Mysterio ce soir, et Damian Priest qui lui a un petit mot pour Edge hein, qui dit qu'il est absolument pas inquiet qui va rester ringside et pour ce match et il est pas du tout inquiet de Edge et qu'il va s'en occuper, et d'ailleurs il fera plus
le défi hein
ce ouais. soir il le défie même il le défie dans deux semaines puisque manifestement dans deux semaines, nous avons un Raw à Toronto, qui est la ville natale de Edge. Et donc, il dit, écoute, je vais faire en sorte que ce soit ton dernier match, hein, grosso modo. Il promet de le défoncer à Toronto. Donc, ce qui sous-entend déjà que cette feud va au moins durer encore deux semaines, ça c'est sûr.
Oui.
Pour le meilleur ou pour le pire, ça on verra. Mais donc le match démarre. Et donc Rey Mysterio, Finn Balor, match de petit gabarit, match de high flyer avec les movesets classiques des deux hommes, avec des senton, des crossbody, des triamigos du côté de Rey Mysterio. Et alors, est-ce qu'il y a eu des petites interactions pendant le match? Alors oui, parce qu'il y a Priest qui prend un 619 par erreur à un moment. Et d'ailleurs, c'est Finn Balor qui en profite pour profiter de la confusion pour envoyer Rey Mysterio dans le poteau du ring et prendre ainsi l'avantage. Et donc ensuite, on a Edge qui débarque, hein, parce que la confusion règne un petit peu, plus le match avance, plus la confusion règne un petit peu dans le ring. Donc Edge débarque pour s'occuper de Damian Priest. Mais cette intervention ne distrait pas spécialement Ray, qui tente un code red et qui tente de placer un 619, mais qui est bloqué avec un coup de la corde à linge et un shotgun dropkick de Finn Balor, et qui tente à son tour de placer son finisher, le coup de grâce, mais qui est manqué. Ray qui retente encore une fois son 619, mais cette fois, eh bien, il n'avait pas compté sur une énième intervention extérieure, puisque c'est au moment de tenter son 619, qu'est-ce qui se passe tout sous le titantron en haut de la rampe? Voilà Rhea Ripley qui traîne le cadavre de Dominic Mysterio, quasiment littéralement, parce que c'est le corps inanimé de Dominic Mysterio, le visage en sang en haut du titantron. Donc Rhea Ripley qui l'amène comme ça, qui le tire par le callback. Donc évidemment, Rey Mysterio devient fou, s'arrête en pleine action, et c'est la distraction de trop, puisque cette fois, Finn Balor arrive par derrière, place son 1916, puis son coup de grâce pour le tomber au bout de 13-14 minutes. Et on finit sur ce match, sur cette image du rire sardonique, machiavélique de Rhea Ripley en haut de la rampe, et Finn Balor triomphant au-dessus d'un Rey Mysterio à l'agonie. Donc une nouvelle intervention, une nouvelle cette romance sadomasochiste entre Rhea Ripley et Dominic Mysterio qui continue. Damian Priest et Edge qui se cognent sur la gueule, plein de choses qui se sont passées. Qu'est-ce que tu fais de toutes ces interactions?
Il y a énormément d'interactions. Le match était sympa en lui-même, mais j'ai envie de dire que finalement il est accessoire à l'histoire qu'il raconte tout autour, parce que c'est vraiment ça qui est le nœud en fait de ce qui se passe dans le show. Et là, t'as des interactions de partout. Et en fait, tu peux les interpréter de différentes manières. Tu peux te dire, tiens, est-ce que Edge, il a pas fait en sorte finalement de laisser Rey tout seul dans le ring pour se faire piéger ensuite par Rhea Ripley? Est-ce que Dominique n'a pas s'est pas arrangé avec sa copine Sadomaso pour déconcentrer son papa pour que Finn Balor remporte la victoire? C'est les deux scénarios sont clairement pour moi possibles. Et Rhea Ripley qui tire Dominique, même si c'est même pas ça, le porter sur une seule épaule à un bras là, clac clac, puis elle l'a balancé par terre comme un sac de patates. C'était assez violent. Là pour le coup, tu vois, je trouvais que c'était une histoire qui n'était pas intéressante par le passé. Là, elle commence, je trouve, à devenir intéressante, notamment grâce à l'exposition dont elle bénéficie, parce que là, ils ont des longs matchs, des longs segments, ça raconte des trucs. Les segments micro sont toujours pas passionnants, clairement. Par contre, les actions, je trouve qu'elles sont intéressantes, quoi. Et Rhea Ripley qui est revenue, ça met du. c'est même un peu de magie là dans cette histoire. Et puis ouais, j'arrive, je suis incapable de dire où ça va tourner. Ça va tourner, c'est sûr, c'est pas possible. Mais je suis incapable de dire dans quel sens.
C'est ça, c'est a priori, il faut qu'il se passe, il va falloir qu'il se passe un truc, il va falloir un coup de théâtre supplémentaire, parce que c'est vrai que le retour de Edge en face, qui tue purement et simplement sa création, sans qu'il se passe rien du côté des Mysterio, ça ferait, il y aurait un petit goût d'inachevé, je pense. Enfin, déjà que le retour de Edge à SummerSlam pour la promo qui a suivi, on était un petit peu sur un sentiment de tout ça pour ça la semaine dernière. Là on est reparti en effet sur des dynamiques assez intéressantes. Tes deux scénarios se tiennent, et je pense que ce qui est en effet sympa à souligner, c'est qu'on sort de Monday Night Raw avec plusieurs pistes possibles, ce qui est plutôt appréciable sur cette rivalité qui avait un peu du mal à enflammer les foules. Alors moi je suis un peu comme toi, les segments micro pour l'instant me laissent un peu de marbre, que ce soit ce qui s'est passé en coulisses avec les Face ou le Damian Priest qui prend sa grosse voix rauque pour faire le méchant, c'est un peu léger, mais en tout cas voilà, il compense par des choses dans le ring, des matchs sympas, hein. Finn Balor et Mysterio, c'est toujours quand même du très très solide dans les cordes. Si on aime les matchs qui bougent et qui se passent un peu dans le ciel, c'est quand même sympa à regarder. Et puis je suis complètement d'accord avec toi, cet ajout de Rhea Ripley donne une... Enfin, ce retour de Rhea Ripley donne une autre dimension à la feute, parce que ça donne une... Bah, déjà, elle a une aura qui est quand même assez incroyable, hein. Il n'y en a pas deux comme elle dans le roster, donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se dégage de Rhea Ripley qui est fort. Il y a une dimension un peu mixte qui rentre dans la rivalité qui est toujours assez sympa, c'est toujours assez inédit, hein, de voir des... Puis en plus, là, elle est dans une position de telle domination physique sur Rey Mysterio, que c'est quand même, sur Dominique Mysterio, que c'est quand même... C'est même complètement inédit, hein, je pense, d'avoir une dynamique comme ça, femme-homme, où ça fait plusieurs semaines maintenant qu'elle le défonce, qu'elle le tabasse, c'est quand même assez rare de voir ça. Donc il y a des choses qui se passent, et en tout cas, Ils font un effort cette semaine, je trouve, de ne pas laisser cette rivalité au banc de la mort clinique, hein, quasiment, comme elle l'était avant SummerSlam. Là, ils ont eu le main event la semaine dernière, ils ont eu un long segment cette semaine. Donc en effet, ils essayent de raviver la flamme, et ça fonctionne. C'est pas encore ça, mais ça va dans le bon sens. Je partage pas mal ton avis. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui va dans le bon sens? On va voir, c'est le tournoi féminin qui démarre, le tournoi féminin pour les ceintures par équipe. En parlant de segment micro un peu compliqué, on a eu, parce qu'il faut bien quand même hyper un tout petit peu les matchs, hein, parce que le bracket, tout le monde l'a découvert devant la télé en même temps à Monday Night Raw, les équipes aussi. Il y a des associations qui sont un petit peu de bric et broc, donc il faut raconter des choses en express. Et donc on avait ce soir le premier match du tournoi et du premier tour, c'est Dakota Kai et Io Sky, on va essayer de ne pas faire la même erreur que Bayley, qui affrontaient Dana Brooke et Tamina, les championnes, on pourrait dire les championnes 24-7, c'est Dana Brooke la championne 24-7, mais donc elles ont une petite passe d'armes avant le match au micro, histoire de quand même créer un semblant de rivalité avant le match, qui nous permet d'entendre la douce voix de Dana Brooke au micro, qui est toujours un plaisir par ses talents de promo inégalés. Bayley et compagnie qui arrivent pour se foutre de leur gueule et leur promettre au passage que vous inquiétez pas les filles, on vous prendra pas votre titre 24-7, on a des choses un petit peu plus importantes en tête, petite pour le coup touche que j'ai trouvé que j'ai trouvé bien senti. Et puis bah écoute, on embraye sur ce match par équipe qui je passerai pas 107 ans dessus. C'était un petit showcase, hein, on va dire, mais un showcase un petit peu laborieux pour les Hills, puisque c'était la première fois qu'on avait les deux sous-fifres de Bayley. On va les présenter comme ça, mais en tout cas les deux filles de second rang de la faction qui catchaient ensemble en équipe. Elles ont mis 10 minutes à se défaire de Dana Brooke et Tamina, ce que j'ai trouvé quand même un peu long. Mais bon, écoute, c'est la fin de match qui s'est conclue donc avec Tamina qui a tenté, il me semble, un superfly splash,
oui,
en hommage à Snuka, et Dakota, non, Io Sky qui relève les genoux, et Tamina qui s'arrête juste au bon moment. Mais au final, juste pour se prendre un super kick de Dakota Kai,
qui ouvre la porte au moonsault, sublime moonsault de la du Genius of the Sky là, Yoshirai, Yosky pour le tomber. Donc ouais, écoute, un match qui je pense aurait gagné être plus court, autant pour nos yeux et en même temps pour l'aura peut-être des néo-heels. Mais en tout cas, le travail est fait. Les deux petites nouvelles ramassent leur première victoire dans le main roster et avancent dans ce bracket où elles affronteront les vainqueurs entre Asuka, Alexa Bliss contre Doudrop et Nikki SH. Donc voilà, qui est un match qui se déroulera on ne sait pas quand, puisque le tournoi a l'air de, s'ils font qu'un match par show, le tournoi va durer un petit moment. On ne sait pas combien de temps, ils n'ont pas annoncé, je crois, de timeline particulière pour ce tournoi.
Non, ça fait partie des mystères.
Oui, c'est le mystère, on ne sait pas combien de temps. Ça se trouve, il y a un de ces quatre, ils vont en expédier trois dans un show, on ne sait pas. Mais bon, voilà ce qui s'est passé cette semaine pour le tournoi féminin. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça?
Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, je suis comme toi, je trouve qu'ils ont mis beaucoup trop de temps et à la promo et au match. On sent quand même qu'ils voulaient les laisser bosser. Dana et Tamina, c'est pas con en fait, finalement, leur rapprochement par rapport à la ceinture 24-7, mais je pense que ça pouvait être réglé en 15 secondes, hein, cette histoire-là. Il fallait pas, c'était pas la peine d'en rajouter trop. Et pour le match, il y a eu à la fois, je pense, l'envie de laisser un peu l'occasion à Dana et Tamina de catcher un petit peu autrement que pas en faisant un enchaînement de roll-up, et aussi planter les deux nouvelles filles en leur montrant au public qui elles sont et comment elles catchent. Du coup, c'est vrai que ça fait bizarre de les voir autant galérer face à deux locardeuses, mais bon, je comprends le principe, quoi. Et puis, ouais, donc, du coup, et juste pour revenir sur les braguettes, on a vraiment d'un côté les filles d'Euro, de l'autre côté les filles de SmackDown, plus une équipe d'NXT d'ailleurs qui a été rajoutée parce qu'il n'y a pas assez de filles à SmackDown.
Il faut faire le nombre. Ouais.
Voilà, il faut faire le nombre. On a un match par semaine a priori pour l'instant. C'est vrai qu'on n'a pas la date de la finale. Ça, c'est important pour moi parce qu'en fait, si tu as ta finale qui se retrouve à Cardiff, vu que tu as quand même un 3v3 avec deux des équipes qui sont dans le tournoi, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, je ne sais pas exactement quand ils vont jouer ça. Si c'est à Cardiff, moi j'en profite pour le dire maintenant, moi je mise vraiment sur Doudrop et Nikki SH qui sont écossaises, donc pas loin, et qui permettraient de libérer en fait justement les deux autres équipes qui vont s'affronter dans le 3v3 en fait. Et puis voilà, donc je pense qu'à coup d'intervention, elles pourraient très bien arriver à se retrouver en finale, les Doudrop et Nikki SH, avec des interventions de part et d'autre. Donc je miserais bien bien là-dessus pour la partie Raw en tout cas.
Écoute, ouais, c'est faut voir le timing. Le timing, en effet, aura une importance particulière, oui. Parce que Clash at the Castle, c'est quand même encore assez loin. C'est le 3 septembre. Et donc, ça veut dire qu'en fait, il nous reste le SmackDown de cette semaine qui va se dérouler ce soir à l'heure où nous enregistrons. Et derrière, il va rester 3 Raw et 3 SmackDown complets. Donc, ça veut dire encore 7 émissions en comptant celle de ce soir. Mmh. C'est vrai que quand on se dit 7 émissions, un match par semaine, en fait, on
est
quart, on a
nos... demi. C'est soit au 29, soit au 5, c'est eux de décider.
Donc le timing fleure bon la finale à Clash at the Castle, et auquel cas, il faut la prendre en compte un petit peu dans la lecture du bracket, c'est vrai, puisque on a du mal à imaginer un 3v3 qui impliquerait des filles qui sont également impliquées dans la finale. En tout cas, de quoi qu'il arrive, il ne pourra pas, puisqu'elles sont dans la même partie de tableau, il pourra pas y avoir, elles pourront pas être en finale, hein, les quatre du moment, hein, Kai, Sky et Bliss et Asuka. Écoute, affaire à suivre. En tout cas, voilà, match laborieux, mais on va dire peut-être il faut respecter la chaîne alimentaire. Dana Brooke et Tamina, elles sont quand même, c'est pas des rookies. Les filles, c'est des rookies. Donc peut-être qu'ils se disent que voilà, une victoire de 10 minutes dans l'œil du public, ça reste un petit upset en quelque sorte. Je sais pas comment est-ce qu'ils voient les choses. Moi, j'aurais préféré que ce soit peut-être un peu plus décisif. Mais bon, écoute, on va prendre ce qu'on a et on va avancer dans ce tournoi en se disant que déjà, on s'est débarrassé de Danabrook et Tamina, et que c'est pas une mauvaise chose. Donc voilà, et on va continuer avec quoi? Bah avec du catch, parce que les nouveaux Monday Night Raw, maintenant, c'est du catch, et on va continuer avec un gros match, puisque c'est l'heure du match pour le titre US. Tommaso Ciampa, tout de bleu et rouge vêtu, s'en vient. Alors il y a contraste hein, évident entre la musique, le titantron très sombre et un Tommaso Ciampa rayonnant dans sa magnifique robe bleu et rouge en hommage à Harley Race. Donc qui s'en vient et pour défier Bobby Lashley et on va partir dans ce qui spoiler a été assez facilement mon match préféré de la soirée. On va partir dans 13 minutes de catch avec un gros mix de stiffness parce que Ciampa c'est pas non plus un rigolo, il est capable d'envoyer des gros parpaings. Bobby Lashley, il y a pas de surprise. Mais pas mal de techniques avec pas mal de catch au sol qui n'étaient pas déplaisants et une opposition de style qui était assez inédite avec Tommaso Ciampa qui a pu continuer on va dire de dérouler aux yeux du grand public son moveset parce que on va quand même se dire Tommaso Ciampa n'était pas très connu hein, du public de Monday Night Raw je pense il y a encore un mois et c'est vrai qu'entre son triple threat et son match contre AJ Styles la semaine dernière. Et maintenant, ce match de 13 minutes contre Bobby Lashley, je pense que maintenant, le Kidam a appris à composer avec Tommaso Ciampa. Gros match. À un moment, vers le milieu du match, qui était assez à l'avantage de Bobby Lashley, cette domination se conclut avec un spear terrible dans les côtes de Tommaso Ciampa. On se dit que ça y est, le bon Tommaso est fichu. Mais non, c'était sans compter l'intervention du Miz. Qui était évidemment ringside hein, et qui a placé le pied de son protégé sur les cordes. L'arbitre qui était très attentif voit et casse le compte. Cette intervention ramène dans le mix AJ Styles hein, qui tout de suite ne peut pas tolérer l'injustice comme ça, c'est impossible, donc il intervient immédiatement et donc il court après le Miz, coup de la corde à linge pas mal d'ailleurs, par-dessus les barricades, l'action qui part un petit peu dans le public et les deux qui se courent après et qui filent en coulisses. Donc le match se termine un contre un, pas de distraction. Pendant ce temps-là, Tommaso Ciampa, qui avait tenté un petit paquet, n'obtient que le compte de 2. Donc le match continue un petit peu. Bobby Lashley qui tente de placer son Hurtlock, mais là, deuxième moment de chaos un petit peu dans le match, puisque la course-poursuite en mode Tom et Jerry de Edge Styles et Miz passe par le ring. Ça distrait tout ce beau monde et le Hurtlock ne peut pas passer. Ciampa qui profite de cette distraction pour envoyer Bobby Lashley dans le coin du ring dont la protection avait sauté un petit peu plus tôt dans le match et le balance l'épaule la première dans le poteau pour un compte de 2,9 qui pour le coup a bien fait réagir le public. Malheureusement... ça ne suffit pas pour Tommaso Ciampa. Nouvelle tentative de Hurtlock de Bobby Lashley, mais renversée dans une soumission qui était celle de ton ami, ton très cher ami Johnny Gargano. Tommaso Ciampa qui place donc de Gargano Escape, habilement, subtilement, référencé par Corey Graves, hein, qui dit pendant la soumission « Sometimes you got to do it yourself », donc « do it yourself », le DIY qui était le nom de la tag team entre Gargano et Ciampa. Mais cette soumission ne suffira pas puisque Bobby Lashley arrive à soulever Ciampa et placer une power slam. Il y a plein de moves en fait dans ce match. Je me retrouve à faire un play-by-play qui est assez long. Tommaso Ciampa qui revient dans le ring, qui place son Willow's Bell pour encore un super compte de 2. Et derrière un autre running knee mais qui est contré en spinebuster suivi du Hurtlock, et ce Hurtlock cette fois sera le bon puisqu'au bout de 13 minutes Tommaso Ciampa succombe et tape et est donc soumis pour la victoire du champion. Grosse victoire de Bobby Lashley face à un vaillant Tommaso Ciampa qui certes aura bénéficié de beaucoup de distractions mais on pourra pas dire qu'il a pas joué crânement sa chance et donc, post-match, on a une brawl de, de Miz et AJ Styles qui continuent à se foutre sur la tronche, et on apprend qu'ils seront bookés dans un no DQ un petit peu plus tard dans l'émission pour boucler la boucle. Mais déjà, on va s'arrêter sur ce match pour le titre US qui était, me concernant, assez impressionnant.
Et me concernant aussi, en fait, ils ont habilement joué un peu sur plusieurs niveaux en fait de connaissance de ce qui se passe entre les cordes. Pour le fan, on va dire ultramark, il se disait mince, mon champion US Bobby là, il est en train de se faire flouer par les autres tricheurs comme pas possible. Et tu penses vraiment plusieurs fois que Ciampa va gagner.
Ouais, il y a des très bonnes near-fall. Hein.
Ouais. Des très bonnes near-fall, voilà. Et puis il y a toute l'histoire avec le coin qui est décroché par Ciampa. C'est Ciampa qui décroche le coin en fait. Après, ouais, il tourne un peu tout seul, ouais. Parce que c'est Ciampa qui a déjà commencé à faire le truc. Et ensuite, tu as aussi le suiveur un peu plus averti, tu as aussi le truc de se dire ah ouais, mais attends, Ciampa c'est un gars de Triple H. En plus, elle lui a laissé faire sa truc avec Harley Race au début là. Et c'est pareil qu'il va nous faire passer devant Bobby Lashley, salopard. Et puis, tu vois tout qui est en train de se mettre contre Bobby Lashley. Tu dis, mais c'est pas possible, il va pas nous le faire. Battre Lashley par Ciampa, ça serait scandaleux. Et ben non, il a finalement, c'est bien Lashley qui s'impose. Et je t'avoue que moi-même, tel un marque de première, j'étais en train de mouiller mon slip à chaque tombée de Ciampa en disant, mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Il va pas gagner, ouais. Salopard.
Il y avait un bon mix d'overbooking et en effet, comme tu dis, de références qui faisaient. Qui pouvait laisser penser qu'on était peut-être en train d'assister à un changement de titre, donc c'était bien fichu.
Ah ouais, donc moi j'étais pas mal pris par le truc, je ne sais que dire de plus, si ce n'est qu'effectivement c'était une première séquence de clin d'œil à Johnny Gargano, le gars de Cleveland, Ohio, hein, pour changer. Ouais. Avec le Gargano Escape, mais qui n'aura pas fait sortir le petit Johnny merdique de sa boîte.
Non, oui, je me dis que tu devais suer à plusieurs niveaux pendant ce match, parce que il pouvait y avoir à la fois la prise de titre de Ciampa, le retour de Gargano.
Ah ouais, ça aurait été un rôle terrible.
Beaucoup de mauvaises nouvelles qui pouvaient se passer en un seul match. Non, mais en effet, finement amené ce match, finement construit, bien raconté. On a pu voir quand même, j'ai trouvé, à mon plaisir, tout de même, que l'hommage, la promo à Harley Race et tout, n'avait pas trop entaché la dynamique, j'ai trouvé, pendant le match, qui a été bien rattrapée par l'overbooking de Hill, avec la présence du Miz autour, toutes les distractions qui ont remis, on va dire, un petit peu l'église au milieu du village, avec la bonne dynamique Hill Face. Le public était vraiment à fond pour Bobby Lashley, qui est très 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 over en ce moment. Donc ça n'a pas trop entaché la dynamique du match, ce qui était bien, parce que j'avais trouvé ça vraiment maladroit, cette promo d'avant-match, un petit peu comme tu l'avais souligné. Et puis derrière, ouais, grosse presta, et je trouve que, écoute, je suis assez curieux de voir comment Triple H, parce que bon bah voilà, hein, c'est sûr que le retour aux avant-postes de Ciampa dans Monday Night Raw n'est sans doute pas non plus le fruit du hasard. On va voir comment Triple H compte gérer un petit peu ce profil, qui était très clairement aux oubliettes, hein, depuis de longs mois, mais qui, en deux semaines, j'ai trouvé, fait un retour sur le devant de la scène, avec du temps au micro, beaucoup, beaucoup de temps dans le ring, peut-être qu'il y a une place pour lui. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Ciampa, autant je suis pas un très très grand suiveur et un grand fan de NXT, mais il y avait quelques profils qui attiraient, on va dire, mon regard, et il en faisait partie, parce que je trouve qu'il a un charisme et un style qui est assez indéniable et qui mériterait d'être creusé, donc à voir quels sont les plans pour Ciampa, mais il sort de cette défaite, je trouvais il sort bien de cette défaite, quoi.
Oui, ouais, c'est un peu comme on disait tout à l'heure sur Kevin Owens, qui a fini son travail avec Ezekiel pour le rendre crédible. Alors, à un niveau low card, bah là c'est un peu pareil ce qui se passait avec Ciampa. Là c'est le mec qui était juste un nobody depuis des semaines, là, où on voyait juste qui attaquait les gens, on savait pas pourquoi. Là, en quelques semaines, il a été un peu plus crédibilisé. Je j'aimais bien aussi son travail sur NXT. J'ai toujours de gros doutes sur le fait que ce soit transposable dans le main roster. Oui. Mais il peut très bien faire un bon low carder dans le futur, bon low mid card quoi. Donc tant mieux pour lui si ça se passe bien et que ça lui permet de récupérer un peu de lumière.
Absolument, absolument. Et un autre bonhomme qui essaye de récupérer un petit peu de lumière, c'est Homos. Homos qui était de sortie. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas trop vu. Qui était de sortie à Monday Night Raw et qui était de sortie pour faire un bon petit squash des familles à l'ancienne, très old school. C'est pareil, je pense que ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu dans un weekly un bon vieux squash des familles contre les jobbers de la région. Parce que j'imagine que ça devait être des petits catcheurs du coin. Et donc nous avions Homos contre eux, d'après mes notes, Andrea Garcia et Spencer Slade. Une belle paire de vainqueurs qui se prennent un enchaînement de choke slam en une minute, deux minutes, avec les commentaires assez drôles, j'ai trouvé de Corey Graves qui dès le début, avant même que la cloche sonne, qui disait que ils allaient se faire défoncer. Regardez quelle horreur, c'est insoutenable et tout. Enfin, bon, donc voilà.
Vous attachez pas à eux, ça va bientôt être
des
cadavres.
Faites pas trop, pas de connexion. Pas de connexion avec eux, s'il vous plaît, parce que vous allez le regretter. Donc voilà, peut-être en quelques mots, ce petit segment pour Homos, toi qui regrettais l'absence de muscles et de taille à Monday Night Raw.
Oui, mais c'est très bien. Franchement, c'est exactement ce qu'il faut, d'une part du muscle, et d'autre part, savoir varier les temps dans le ring entre des longs matchs pour montrer des choses, et aussi de temps en temps, il y en a besoin de ces matchs-là qui sont courts, et qui montre que des Kevin Owens et des Homos sont des gars dangereux. Donc moi, je trouve ces segments diablement efficaces.
Eh bien, écoute, je suis assez d'accord avec toi, en effet. Même si j'ai trouvé peut-être que c'était pas le plus impressionnant des squashs, mais en tout cas, ça mérite de garder le géant nigérian fort dans l'esprit de tout le monde, et puis d'avoir un petit changement de rythme aussi dans l'émission. On ne peut pas avoir que des matchs de techniciens de 15 minutes. Il faut aussi des gros masters. Pour nos futurs babyface, hein. Donc c'est important de conserver ces gars-là. On a une petite promo backstage, gentillette, qui casse pas trois pattes à un canard, mais de Seth Rollins, hein, qui a catché, mais il faut aussi qu'il parle, hein, parce que Seth Rollins, c'est Monday Night Raw, plus on en a, mieux on se porte. Donc Seth Rollins, petite promo par rapport à Matt Riddle, puisque on nous annonce par segment vidéo que Matt Riddle sera là la semaine prochaine pour une interview. Il va nous donner une petite update sur sa recovery, sa convalescence, pardon. Et donc Seth Rollins dit que grosso modo il en a rien à foutre, il se moque un petit peu, il imite Matt Riddle, très belle imitation de Matt Riddle, hein. Dude, bro, il va parler tout doucement, mais que lui, voilà, il se positionne, il se donne un nouveau surnom, parce qu'il y a Seth freaking Rollins, l'architecte, maintenant c'est le gatekeeper de l'industrie, Seth Rollins, si on veut construire quelqu'un, il faut passer par lui. Ce qui est ironiquement très très vrai, et puis petite punchline qui a fait bien réagir le public. Il dit que si vous voulez savoir tout ce qu'il y a de mauvais dans Matt Riddle et pourquoi c'est un loser qui ira jamais loin, vous avez qu'à demander à Dana White. Donc là, petit murmure dans les travées de l'arène. On a senti que, dès qu'on fait des petites références un petit peu cross plateforme, cross sport et tout, ça fait toujours vibrer un petit peu les smarts. Dana White, qui est le patron de l'UFC, donc forcément, petite pique assez bien sentie. Et Seth Rollins, écoute, voilà, qui nous tease donc ce segment de la semaine prochaine où il va sans doute se passer des petites choses. On continue avec, on va reprendre, hein, le catch technique, le catch long. On va reprendre les bonnes habitudes, puisque nous avions un match en match un petit peu random, sans doute un petit plaisir offert à un nouveau régional de l'étape, puisque Dolph Ziggler qui vient de Cleveland, Ohio, avait un match contre Chad Gable. Un petit 1 contre 1, incongru comme ça. Donc Chad Gable et Dolph Ziggler qui, si je ne m'abuse, étaient les deux les deux membres du Triple Threat qui avaient perdu contre Tommaso Ciampa la semaine dernière. C'était ça, non?
Ils étaient un Triple Threat, mais c'était le même ou pas? Je suis pas sûr. Non, je crois que Gable était...
Ah, C'était peut-être avec Miz, je sais plus. Enfin bref.
Il y avait avec Miz, je crois, mais je suis plus sûr, t'as raison.
Et donc, bon, bref, Chad Gable et Dolph Ziggler. Donc, Chad Gable, Dolph Ziggler, comme vous en doutez, deux techniciens. Donc pas mal de séquences au sol, pas mal de soumissions. Chad Gable, toujours très, très, très porté sur les ankle locks, les armbars, toutes les prises de soumission. On a un petit l'enchaînement de fin de match avec un super kick de Dolph Ziggler tenté mais qui ne fonctionne pas puisque la jambe attaquée pendant tout le match par Chad Gable flanche un petit peu, ce qui permet à Chad Gable de porter une powerbomb à Dolph Ziggler et d'enchaîner tout de suite sur une nouvelle ankle lock. Sauf que Dolph Ziggler, au terme d'un effort héroïque, n'abandonne pas, casse la prise et réussit finalement à porter son super kick pour le tomber en 6 minutes 30. C'était un match tellement random qu'on ne peut pas non plus demander au public de s'intéresser à tout pendant un show de 3 heures. Mais c'était un match qui, malgré le fait que ce soit un régional de l'étape, n'a pas forcément suscité les folies de la foule par rapport à tous les autres matchs de catch qu'on avait pu avoir dans l'émission. Je ne sais pas, toi, ce que tu as pensé de ce petit match.
Rien de particulier, vraiment. Je suis un peu comme la foule, en fait. Comme le match, contrairement à tout le match beaucoup de matchs qu'on a décrits depuis tout à l'heure, là, qui ont été où on s'est raconté quelque chose, ce match-là, il racontait absolument rien, hormis random match entre deux gars, dont un gars qui est de la ville.
Ouais, c'est ça, exactement.
Vraiment pas plus intéressé que ça.
Non, mais de toute façon, je pense que souvent les réactions du public sur place en disent plus long que de longues analyses. En effet, c'est vraiment, on a senti qu'il y avait un désintérêt assez fort du public, surtout à ce moment de l'émission, parce qu'on est dans la troisième heure, ça commence à être un peu long, on se demande un petit peu pourquoi ils nous positionnent ça là. Et puis je trouvais que c'était vraiment la première, parce qu'on parle de nouvelle ère, Triple H, aux manettes de Raw et tout. Moi j'avais été assez séduit par le Raw de la semaine dernière, et relativement séduit par celui-ci aussi, on pourra en parler dans la conclusion, parce que pour ce que tu as dit, c'est que je trouve que là ça fait 2 semaines qu'en fait on a 100% des segments sur l'émission qui ont un rôle à jouer, qui racontent des choses, qui s'inscrivent dans des développements qui sont plus ou moins intéressants, mais en tout cas qui ont à chaque fois une raison d'être. Et là, je trouve que c'était vraiment le premier vrai faux pas, c'est la première fois qu'on a quelque chose qui est un peu de l'ancien air, on va dire d'une certaine manière, même si j'adhère pas forcément à ce comparatif, mais qui est de dire, on va foutre du remplissage pur. Alors peut-être que la nouvelle ère, c'est de se dire que maintenant le remplissage, il est pour les hommes. Avant, peut-être qu'à la place de ce match-là, on aurait eu Nikki et SH contre Lacey Evans, ou j'en sais rien, je sais pas quelle connerie. Mais là, maintenant, c'est des matchs masculins qui occupent ce spot.
Alors peut-être qu'ils s'en serviront plus tard, mais pour le coup, après, c'est. Faut se remettre aussi dans la perspective de certaines histoires qu'on voit là ce soir. Le segment de ces histoires-là n'était pas forcément passionnant non plus, en fait. Donc, peut-être qu'ils lancent quelque chose, peut-être qu'ils lanceront rien, ils en savent rien, ils tentent un coup, ils étaient dispo, et on a besoin de temps antenne, c'est eux qui s'y sont collés.
Exactement. On enchaîne avec un petit segment backstage et justement la suite un petit peu du fil rouge que j'ai évoqué, du fil rouge très discret, puisque nous avions un petit segment Asuka et Alexa Bliss qui était au micro. Et alors ce que je vous disais, c'est que c'est vrai que ce tournoi tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Les associations tombent aussi un petit peu comme des cheveux sur des soupes. Beaucoup de soupe, beaucoup de cheveux. Et en fait, Asuka et Alexa Bliss avaient le droit à une petite vignette où c'était leur occasion de paraître sympathiques auprès du public et d'expliquer un petit peu pourquoi elles étaient en équipe, de montrer qu'elles sont copines. Sauf que malheureusement, en fait, elles n'ont pas vraiment l'occasion de montrer grand-chose puisqu'elles sont très rapidement interrompues par encore Bailey et compagnie qui arrivent pour se moquer d'elle en leur disant que si vous gagnez Je sais plus ce qu'elle leur dit concrètement, mais bon, voilà, de toute façon, n'oubliez pas que même si vous gagnez la semaine prochaine contre Nikki et Sage et Doudrop, ce sera contre nous et on va vous défoncer, patati patata. Et en fait, pendant que tout ça se passe, on a des policiers qui courent backstage et qui continuent à gérer le crash de voiture qu'on avait entreaperçu un petit peu plus tôt dans l'émission. On sait pas trop ce qui se passe, mais ça fait deux segments de suite où on a l'impression de voir une agitation derrière qui ne dit pas son nom, qui est à l'écran mais qui n'est pas commenté. Donc ça pique notre intérêt, on se demande ce qui se passe, mais voilà, on n'en sait toujours pas plus. Qu'est-ce que tu disais toi à ce moment-là de l'émission, papy?
Alors moi sur le premier segment qui s'était passé en fond avec l'accident de voiture, je t'avouerais sincèrement que je m'étais juste dit bon bah ils ont mis des gens là, ils savent pas quoi foutre et puis c'est juste pour habiller un peu l'écran. Là tu dis quand même qu'il y a un truc qui est quand même en train de se passer. Parce qu'en plus c'est toujours un truc en continuité en fait à l'interview. Après je crois que ça bascule sur AJ Styles qui est en train d'aller vers le ring mais qui du coup va s'arrêter parce qu'en fait t'as les gens qui sont en train de courir vers le ring aussi a priori. Quand tu vois la direction de où ils vont les gens, donc tu te dis il y a un truc qui est en train de se passer, voilà, ils sont en train de nous raconter quelque chose.
Exactement, ouais, c'est marrant, je suis un peu comme toi. Le premier segment, je me demandais si c'était pas juste. Je me doutais que c'était pas une erreur parce que parce que tu pourrais te dire ça c'est bizarre, pourquoi ils filment ça, il y a peut-être eu un vrai accident derrière mais ils ont pas vu que c'était dans le champ de la caméra. Bon, ça vous inquiétez pas, il y a une règle d'or qui est immuable dans le catch, c'est si c'est à l'écran c'est que c'est prévu, vous emmerdez pas, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin et de vous triturer la tête. Mais du coup il y avait quand même ce petit feeling alors du segment de Kevin Owens qui était, c'était tellement random, tellement derrière, tu te dis bon que écoute, c'est peut-être pas très très important, voilà, là tu commences à te dire tiens il se passe quelque chose, donc c'est intéressant. Mais on va voir ce qui se passe puisqu'on va continuer avec notre main event de ce soir, notre main event qui est consacré à AJ Styles et le Miz, choix de main event quand même assez improbable puisque on parlait de Raw nouvelle génération. Il faut se dire que sur les deux derniers Raw on aura eu quand même du coup un main event qui était consacré au Judgment Day et Mysterio et maintenant à AJ Styles contre le Miz, donc des choix assez originaux. Miz AJ Styles no DQ, c'est parti. Styles qui démarre très 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 fort ce match et qui emmène les affaires tout de suite à l'extérieur. Il est pas là pour rigoler, hein. C'est le AJ Styles Pitbull ce soir qui commence à en avoir ras la casquette du Miz. Donc là, on sort tout de suite kendo stick, chaise, dessous le ring, mais tout ça ne va pas. Donc il part tout de suite prendre la table. Donc là, le public se dit que magnifique, il va en avoir pour son argent ce soir. Donc, mais bon, le Miz ne s'en laisse pas compter et intervient pour un dropkick et il repousse tout de suite la table sous le ring en bon heel qu'il est pour calmer les ardeurs de la foule. Et par contre, lui, il se dit que le kendo stick, ça fonctionne très très bien aussi et donc il commence à défoncer AJ16 avec le kendo stick. On continue, ça part sur la table des commentateurs et ça défonce la table des commentateurs et ça part en pause. Ensuite, on a AJ Styles qui retente de sortir encore une fois la table de sous le ring, mais il prend un petit peu trop long et donc il se fait tabasser avec le kendo stick une nouvelle fois. Et bon, bref, on a des enchaînements qui continuent avec au final un skull crushing finally tenté par le Miz, mais contré par AJ Styles qui place son phénoménal forearm pour deux seulement. Et oui, pour deux, puisque qui est-ce qui est arrivé de nulle part, c'est évidemment Tommaso Ciampa le Miz et Ciampa qui se sauvent mutuellement les miches. Ce soir, cette intervention qui n'est pas du tout appréciée par AJ Styles, puisque Ciampa se fait tabasser à son tour, c'est no DQ, tout le monde en prend, sauf que cette distraction permet au Miz de prendre un tombé sur AJ Styles, ça ne suffit pas, phénoménal forearm chargé, mais le Miz qui lance la chaise en pleine face de AJ Styles pour contrer le phénoménal forearm, super spot, il enchaîne sur un skull crushing finale, seulement deux. C'était le manqué de trop pour Miz qui avait laissé passer ses chances et donc AJ Styles qui le frappe avec la chaise et qui arrive à placer son Styles Clash. Toujours plaisant d'avoir un match de AJ Styles qui se termine sur le Styles Clash, un finisher qui revient un petit peu au goût du jour ces derniers temps, j'ai trouvé, parce que il a aussi gagné son triple threat, il me semble, la semaine dernière avec un Styles Clash assez dingo en prenant Mustafa Ali à la volée, je crois, il me semble.
Mmh, oui.
Donc c'est cool, je trouve, de revoir un petit peu le Styles Clash. Voilà, c'était pour le petit clin d'œil. Et donc, bah voilà, victoire de AJ Styles, le babyface qui l'emporte malgré les distractions des heels. Sale soirée pour Tommaso Ciampa et le Miz quand même. Et pendant la célébration de AJ Styles, on a notre payoff un petit peu du fil rouge. Alors payoff, encore faut-il, faut être généreux, puisqu'il semble encore se passer quelque chose un petit peu dans le coin de la caméra, et on voit de l'agitation au bord du ring, en ringside, alors pas en ringside, c'est-à-dire de l'autre côté de la barrière, hein, côté public, puisqu'il y a une silhouette cagoulée noire qui est en train de se faire appréhender par les forces de l'ordre, et limite mettre au sol. On sent qu'il y a un petit murmure dans le public qui se développe, et AJ Styles, qui d'ailleurs se demande bien ce qui se passe pendant que sa musique continue à jouer, il regarde un petit peu de loin, et là on entend les commentateurs qui murmurent. C'était joliment fait, on va dire, parce que c'était pour nous, un peu pour nous donner le sentiment que c'est prévu, enfin il faut pas qu'on l'entende, mais on l'entend quand même, enfin bref. Et donc on a Corey Graves qui, on l'entend murmurer, c'est Dexter. Quoi, c'est qui? Dexter Lumis. Et le show se termine comme ça, c'est tout. Rideau, fermez la boutique. Cliffhanger. Est-ce que ce cliffhanger. Alors, déjà, peut-être le match aussi, mais ce qui s'est passé après. En tout cas, j'ai le sentiment que ça fait très longtemps qu'on n'a pas terminé un Monday Night Raw dans cette ambiance un petit peu particulière, presque malaisante de. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe, quoi.
Je sais pas trop. Le main event était sympa, il a été mené au pas de charge parce qu'il restait plus beaucoup de temps, et donc du coup ils ont tracé à tous foutre dans la gueule, et comme tu le dis, ça a même été à avoir du jet de chaise. Ouais. Toujours de l'overbooking à foison avec de l'intervention de Ciampa. Jay Styles très fort, qui quand même a réussi à lui tout seul à éliminer Ciampa et le Miz. Et à se relever du finisher du Miz qui était vraiment sur le cul. Je pense que Jestal est repositionné très fort et t'as l'impression que tout va se mettre contre lui, du coup, vu que tu rajoutes un Dexter Lumis. Donc Dexter Lumis qui est un des nombreux rejetons de Triple H à NXT, donc qui avait un rôle un peu de stalker là-bas, de psychopathe, tueur en série, je sais pas quoi, qui apparaissait, qui disparaissait, qui faisait des dessins et puis qui suivait ses victimes pour essayer de leur faire des câlins, qui a eu une fois de plus une longue histoire avec notamment Johnny Gargano, voilà, décidément, l'homme de la soirée, puisqu'en fait je vais pas tout expliquer, mais en gros il stalkait une fille qui était membre du groupe de Johnny Gargano, et au final ils ont fini un peu avec un rôle de c'était Gargano le beau-père de Lumis, en fait, si je résume très gros le truc.
Ah oui, d'accord.
Okay. Gargano, c'est un peu dans son clan, c'était un peu le père de famille, avec notamment Théorie qui était dans la famille d'ailleurs, et la fille, bon, c'était Indy Hartwell. Bah ouais, c'était en fait t'avais Gargano et sa femme dans la vraie vie, Larrey, là, comment elle s'appelle, Candice Larrey. Voilà, qui avait deux jeunes avec eux qui étaient Théorie donc et Indy Hartwell, et c'était un peu du coup les deux darons et les deux enfants un peu turbulents, quoi. Et Indy Hartwell était stocké par Dexter Lumis, et finalement Gargano, qui a tout fait pour l'empêcher d'aller avec Dexter Lumis, a finalement été a accordé la main d'Indy Hartwell, puisque finalement c'est la fin de NXT 2.0, c'était le mariage entre Indy Hartwell et Dexter Lumis. Voilà, je t'ai fait le très très gros résumé de la carrière de Dexter Lumis à NXT.
D'accord, très bien. Hein. Oui, j'ai l'impression.
Et donc voilà, et donc Dexter Lumis qui revient, et qui revient dans un anonymat le plus total, puisque déjà il est cagoulé, c'est en fond d'écran, comme tu le dis, les commentateurs chuchotent, et donc du coup j'imagine que pour le gars qui connaît pas trop Raw, j'espère qu'il a été piqué par l'intérêt d'aller chercher sur internet qui c'était, et sinon au pire je pense que il a juste éteint la télé, puis il s'est dit tiens, il était un peu long le segment de célébration de Bestage là quand même, hein. Donc c'est pour ça que je suis un peu partagé, parce que je trouve que le cliffhanger existe, mais je suis pas sûr que pour des gens autres que nous qui disséquons un peu ce qui se passe à l'écran, ça a été vraiment vu par le téléspectateur moyen.
Ouais, je suis assez d'accord. Hein. J'ai essayé d'embellir un petit peu le truc là dans le récap, mais fondamentalement, j'ai pas été méga emballé. C'est un peu à double tranchant, hein. C'est-à-dire que j'apprécie ou j'encourage, on va dire, l'idée générale d'essayer de secouer un peu les choses, de faire des choses différentes. C'est sûr que ce qui s'est passé à Raw, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un truc comme ça, des sortes de mystères un petit peu filés sur plusieurs segments backstage avec des choses qui sont vraiment en arrière-plan. Tu te poses des questions, tu te demandes ce qui se passe. C'est relativement finement joué dans le sens où on n'insulte pas l'intelligence du spectateur, tu as à tout lui prémâcher et à tout lui donner comme ça sur un plateau. Donc ça sous-entend de regarder vraiment un peu l'émission et de t'investir dans les 3 heures de catch pour suivre un peu le truc et tout. Par contre, je pense que c'est quand même un peu trop tarabiscoté. Ce que je mettais sur le Discord, c'est faux. Il ne faut pas non plus qu'ils se prennent trop la tête avec ce genre de truc, parce que là, on a quand même... Tu vois, on regarde un show de catch, on regarde pas non plus Breaking Bad, hein, je crois que c'est ce que j'avais écrit. Enfin, c'est pas, on a peut-être pas besoin. Alors, on va pas non plus se dire ce que j'allais dire de ce niveau de complexité. Enfin, c'est pas non plus du génie de storyline, mais ça reste quand même quelque chose d'assez complexe, on va dire, pour un show de catch, dans le sens où on est avant tout là quand même pour voir des promos, des mecs qui se tapent sur la tronche. Donc là. Qui plus est avec un nobody total, hein, parce que voilà, moi par exemple, personnellement, Dexter Lumis, je sais même pas qui c'est. J'ai découvert sa tête là lundi. C'est très très risqué comme segment, je trouve, en effet. Parce que est-ce que le Kidam moyen qui est vraiment 100% raw et qui regarde ça un petit peu du coin de l'œil le lundi se dit « Oh putain, j'ai trop hâte d'être lundi prochain pour savoir absolument qui était ce mystérieux mec qui a voulu rentrer sur le ring, quoi. Parce que au final ça se termine comme ça, tu vois, parce que je me demande si ça aurait pas été peut-être un peu plus efficace de vraiment reconnaître dans le sens que les commentateurs en parlent et qu'ils se disent c'est dingue, oui voilà, il y a quelqu'un qui a essayé de rentrer sur le ring, regardez qui c'est, enfin tu vois, peut-être pour le coup un peu plus prémâché. Ce que je disais, un peu plus prémâché comme ils ont l'habitude de le faire avec le spectateur, de dire voilà, il s'est passé quelque chose, regardez, on va peut-être en savoir plus la semaine prochaine. Là, tu pourrais presque te dire, comme tu as dit, t'éteins la télé, oui, ok, c'était peut-être un peu long, il y a l'air d'avoir eu un frémissement dans le public, je sais pas.
Il y a un fan qui essaie d'intervenir, il s'est fait chier de voir ce qu'il
était. C'était peut-être un épiphénomène, tant pis, quoi. Ouais, exactement. Mm-hmm. Donc, je pense qu'en effet, à trop jouer la finesse, les mecs, je pense, se complexifient un petit peu, se font des nœuds au cerveau. Surtout que, voilà, Dexter Lumis, va falloir quand même, s'ils veulent le présenter au grand public, il faudra faire un grand coup parce que ça commence à faire beaucoup quand même de gens qui reviennent un peu sur le devant de la scène. À Raw, on a Tommaso Ciampa, hein, qui revient un petit peu de nulle part. On a Dakota Sky, tu vois, genre,
voilà.
Décidément. Ouais, bah, voilà. Butch, on l'aura fait. Je sais que je l'ai mal dit, bande de nazes, je sais. Donc on a Dakota Kai et Io Sky. À SmackDown, on a récemment eu Karrion Kross. Donc il y a beaucoup de nouvelles têtes qui reviennent.
Et il y aura Gargano. Je pense qu'on va pas y échapper, malheureusement.
On va pas y couper. C'est pas simple d'intégrer autant de nouvelles têtes dans des shows comme ça, et de le faire avec des trucs un peu trop subtils et tout comme ça. Je sais pas non plus si c'est le bon plan. Enfin, bon, on va voir. On va voir ce qu'ils ont prévu avec Dexter Lumis. En tout cas, ils ont tenté un coup. On va voir si ça paye la semaine prochaine. On va voir ce qui se passe. Vous nous direz en commentaire si vous êtes hypé par l'arrivée, par ce segment, est-ce que vous avez été intrigué. Et puis nous, maintenant, on va passer, puisque c'était, ça y est, ce show est enfin terminé, on va passer au mot de la fin pour savoir justement toi aussi ce qui t'a hypé, ce qui t'a intrigué, ton top, ton flop et ta note, mon cher papy.
Très bien, très bien. Mon top, le top, j'hésite parce qu'on a eu de beaux matchs avec plein d'histoires qui étaient racontées autour en plus. Donc c'est assez intéressant. Je vais en choisir un parce que je pense que tu ne choisiras pas. Je prends le Mysterio Finn Balor. Pour tout ce qui s'est passé autour. Non, mais en fait, c'est le match en lui-même, c'est pas tant qui m'intéressait que ça. Et j'en avais d'autres matchs qui m'ont intéressé. Je pense notamment ceux que tu as cités. Mais en tout cas, le. C'est juste pour mettre en avant le fait que bah ils font des matchs de bonne durée avec plein de trucs qui se passent autour. Et ça, c'est vraiment la marque de fabrique de ce RAW. Le flop, j'hésite un peu. Je vais pas le donner aux filles. Je vais les épargner cette fois-ci, mais je vais le donner à l'excès de smartitude, on va dire, parfois, avec notamment Ciampa et son putain de peignoir là. Je pense que ça aurait rien coûté de juste le mettre avec son peignoir et laisser chercher les smarts dans leur coin et de pas se taper la promo qui fait trop face en fait pour lui et voilà, il faut pas se perdre à vouloir faire des cadeaux à trop de gens là, faut quand même garder un peu le cap de l'histoire et Ciampa c'est un mec qui parle pop et qui est heel quoi, enfin genre on a envie juste qu'il casse des gueules. Et ma note, ce rôle-là était quand même bien meilleur que le précédent pour moi parce que je le trouvais bien mieux équilibré. Avec des matchs longs, des matchs courts, des physiques de différentes qualités, voilà. Hein, on avait enfin de la grosse barbaque. Et donc, du coup, je lui ai donné un bon 3,5.
Eh bon, 3,5, c'est une bonne note. Écoute, c'est marrant. Moi, je vais donner mon top, du coup, à ton flop, parce que je vais donner mon top à Ciampa. Alors j'hésitais entre ça ou alors les Street Profits qui ont pour moi été aussi un angle très très intéressant cette semaine, mais pas simple en fait, c'était peut-être pas simple de donner un top cette semaine parce que j'ai trouvé que, et c'est un peu la marque de fabrique d'ailleurs de ces deux derniers rows, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a pas vraiment de tête qui dépasse vraiment du lot, c'est-à-dire qu'on a des rows qui sont beaucoup plus homogènes. Mais ça vient avec les défauts de ses qualités, à savoir que c'est très homogène, mais c'est aussi peut-être un peu moins flamboyant, c'est-à-dire qu'on a, on a vraiment beaucoup, beaucoup de segments cohérents, tout a une raison d'être, tout s'enchaîne bien, mais il y a peut-être un petit peu moins de coups d'éclat, et donc beaucoup, beaucoup de... On a plus l'impression de regarder 3 heures de mid-card, je trouve, depuis 2 semaines, que vraiment du main event, et puis des trucs à la con, et de la mid-card. Là, c'est vraiment mid-card, tout du long, c'est un peu le sentiment qui se dégage de cette émission. Alors, je trouve la difficulté de mettre un vrai top bien tranché. J'ai quand même le donné à Tommaso Ciampa parce que je suis content pour lui. Je trouve qu'il a, entre la semaine dernière et cette semaine, il a fait un très très gros match, je trouve, contre Bobby Lashley. Il a été réimpliqué dans le main event derrière. Je trouve qu'il a, il tire son épingle du jeu, du temps qu'on lui donne. C'est-à-dire que ça, c'est un truc que j'apprécie aussi pas mal chez les catchers. C'est quand on leur donne 15-20 minutes dans une émission, on sait à quel point c'est dur, à quel point les rosters sont grands. Il faut savoir les saisir. Et je trouve que Tommaso Ciampa, cette semaine encore, il a vraiment bien saisi son opportunité. Il est peut-être en train de se faire un trou. Donc, je lui donne mon top. Et mon flop, par contre, je ne vais pas les épargner. Moi, je vais le donner aux femmes. Je vais le donner aux femmes plus. Je vais plutôt le donner au tournoi, au bracket dans son ensemble. Je trouve que c'est. Je suis pas fan de ce qu'ils font. Je trouve qu'on retombe un petit peu dans les travers de ce que j'aime pas trop dans la division féminine, à savoir, hop, on met tout le monde dans un sac, on secoue fort, on vide et puis on voit ce que ça donne. Et c'est vrai que ce bracket a annoncé un peu à la va-vite. Avec des équipes montées de briquet de broc, pas d'efforts particuliers pour présenter les équipes. Alors tu me diras, voilà, peut-être qu'à SmackDown, ils présenteront un petit peu les deux équipes qui vont s'affronter, et puis la semaine d'après, et puis ils vont continuer comme ça, mais je trouve que c'est pas la meilleure manière d'être vraiment investi dans un tournoi que de le découvrir un petit peu au compte-goutte au fil des matchs. Et puis il y a des matchs qui me font déjà d'ores et déjà un petit peu peur dans le tournoi.
Donc, la partie SmackDown, elle fait peur. Hein.
Ouais, la partie SmackDown, elle fait un peu flipper. Donc ouais, écoute, je trouve que c'est un petit peu la solution de facilité pour meubler le temps chez les filles jusqu'à Clash at the Castle. Parce que c'est vrai que l'écart entre SummerSlam et Clash at the Castle est très très long. Donc ils se sont dit, peut-être au lieu d'écrire des histoires pour d'autres filles que les 6 d'Euro, on va peut-être tout simplement faire un tournoi. Ça leur interdit pas peut-être à l'issue de certains matchs du tournoi de créer des petites rivalités. Ça j'aimerais bien, mais en tout cas dans l'état actuel des choses, pour l'instant ça m'enflamme pas. Et ma note, Raw très cohérent, très homogène, très propre, un petit peu. Alors moi c'est marrant, je le trouvais un petit peu moins bon que la semaine dernière. La semaine dernière, je crois que j'avais donné une très très bonne note, j'avais donné 4 ou 4,25. Là, je vais rester sur un 3,75 parce que je trouve que c'est quand même un très très bon RAW et je suis content de voir que qu'on a beaucoup d'histoires, que la mid-card a de l'attention. Mais voilà, peut-être. C'est marrant, le sentiment que tu as eu la semaine dernière, c'est peut-être moi qui commence à l'avoir un petit peu, je commence à le développer. Je trouve que ça manque de main event, quoi. Donc c'est peut-être ça, voilà. Mais après, voilà, 315, c'est une très bonne note. Eh bien, écoute, voilà qui boucle notre review. Voilà l'heure de l'autopromo. Voilà l'heure où je vais sans doute botcher et où je vais me faire engueuler par IRM, par Inside, par Tonton. S'ils écoutent notre épisode estival. Mais bon, écoutez-vous, chers auditeurs, vous pouvez nous retrouver dans toutes les bonnes crèmeries de l'internet qui produit des podcasts. Hein. Je pense que nous sommes donc sur Ocha, sur PodCloud, sur Spotify. On est sur quoi d'autre, papy, tu sais, toi, sur
quelle plateforme? Apple Podcast, Google Podcast,
on est partout. Sur les réseaux sociaux, on est @catchupcdc sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. On est bien évidemment sur Discord. Regardez le lien Discord dans la description pour venir discuter avec moi, avec papy, avec tous les chroniqueurs et avec tout le Catch-Up Universe, puisqu'on a un forum très actif, même pendant l'été. Ça fait plaisir de venir débriefer des shows tous ensemble, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, bah écoutez, prochaine étape, SmackDown dès ce week-end, hein, puisque bah, forcément, hein, en août, hein, vous nous excuserez, on a un rythme, bah, c'est entre les cocktails et les séances de bronzette au bord de la piscine, c'est un petit peu plus dur de trouver du temps pour reviewer l'ignoble sport. Mais donc prochain épisode SmackDown, Raw, et puis on garde en ligne de mire ce Clash at the Castle pour la rentrée, quand on sera tout bien frais et bronzé début septembre. Je n'ai plus qu'à vous remercier de m'avoir écouté, de m'avoir subi sur cette présentation et je te remercie beaucoup, papy, de m'avoir accompagné sur cet épisode.
Ben, c'est moi qui te remercie d'avoir pris la présentation, du coup. Tu t'en es bien sorti, là. Franchement, là, j'étais transporté dans ma soirée de lundi soir en t'écoutant.
C'est vrai. Bon, écoute, merci, c'est gentil. On espère que vous en avez pensé de même, chers auditeurs. N'hésitez pas à commenter, nous laisser des pouces, nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis, on vous souhaite à tous de bonnes vacances, un bon repos et toujours, comme toujours, une bonne semaine pleine de catch. Allez, ciao, ciao tout le monde.
Salut à tous! Bah, en même temps, comme tu dis, hein, y a tellement de trucs, tellement de détails en ce moment dans les roues que rendez-nous le 24/7.